Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 31 décembre, dernière journée de l'année 2025, mais bon, je le sais, je vous avais dit lors de notre dernier balado qu'on prenait une petite pause et qu'on n'allait pas se parler avant le début du mois de janvier, mais savez-vous quoi? On a regardé ça aujourd'hui, moi et l'équipe de LNH.com, les gars que je vais introduire dans quelques secondes. On s'est dit, ça n'aurait pas de sens de ne pas se parler une journée où Équipe Canada dévoile sa formation pour les Jeux olympiques. Donc, eh bien, nous voici, nous voilà aujourd'hui, moi, avec Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick. Et accessoirement, salut, Guillaume.
Bonjour.
Une édition internationale. Parce que là, les gars, je vous rejoins. Guillaume, t'es au Minnesota présentement, où tu couvres le championnat mondial junior. JF, t'es en Floride, t'as couvert les deux derniers matchs des Canadiens. Et là, tu t'en vas te faire bronzer à la classique hivernale à quoi, 25 degrés? Je sais pas combien il fait là-bas présentement.
Non,
mais
c'est quand même une température hivernale du côté de Miami. On m'avait averti en arrivant à l'hôtel qu'il faisait froid. J'étais heureux du conseil. C'est 18 degrés aujourd'hui du côté de Miami.
OK. Donc, il va quand même pas faire trop chaud dans le Lone, j'ai un blanc sur le nom du stade.
Lone Depot Park.
Lone Depot Park, voilà, c'est ce qui me manque. Le stade des Marlins au baseball. As-tu vu le setup un peu ou
pas encore? Je me dirige, quand on finit le balado, c'est ma prochaine étape.
Okay.
Donc, je vais même aller patiner sur la glace de la classique hivernale.
Avec tes nouveaux patins là, qui ont servi une seule fois, ça va être...
C'est parce qu'on m'a confié comme mandat d'être l'entraîneur. Donc, tu peux pas avoir de patins derrière un banc. Je préférais crier après Nick que patiner.
C'est la dernière fois on a joué au hockey, où j'ai joué au hockey. C'est la dernière fois où j'ai frôlé la mort, mais ça, c'est une autre chose. JF pourrait être témoigné. J'étais rouge un peu comme tu l'es présentement quand même, JF. Peut-être l'éclairage là, de ton côté à l'hôtel.
Oui, je l'éclairage. Peut-être le Elbow Room aussi hier soir, mais c'était quand même frisquet. 11 degrés hier du côté de Fort Lauderdale en fin de soirée.
Pas de coup de soleil à prendre.
Non.
Ben, probablement plus qu'au Minnesota, parce que je vous dirais qu'il y a deux jours, c'était le blizzard ici au Minnesota. Moins 20, moins 25, c'était quelque chose. Maintenant, on est revenu à des températures un peu plus normales, disons, mais pas beaucoup de soleil ici depuis le début du tournoi.
Non. Tu parles du Minnesota, c'est plutôt rare que c'est. À vrai dire, c'est probablement jamais arrivé, mais les équipes Canada ont dévoilé sa formation olympique aux États-Unis. On a fait ça dans un. Tu l'as dit dans ton texte qu'on peut lire sur LNH.com, un chic hôtel du Minnesota où Doug Armstrong était là avec tous les décideurs du deuxième étage, je peux dire, les dirigeants d'Équipe Canada, pour dévoiler cette équipe-là. On va en parler, les gars. Quelques surprises, quelques omissions, mais je pense pour les gens qui nous écoutent à Montréal, une des bonnes nouvelles, Nick Suzuki va avoir gagné sa place avec l'équipe. Et je pense que Doug Armstrong l'a dit, avait pas vraiment le choix de le choisir. Probablement que la décision était faite depuis un petit bout. C'est pas dû au match d'hier où il a marqué deux buts, mais quand même, Suzuki a vraiment prouvé qu'il avait gagné sa place avec cette équipe-là.
Ben, depuis le 1er janvier, Nick Suzuki fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Depuis même son exclusion de la confrontation des quatre nations, Suzuki est parmi les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue. Cette saison encore, mène le CH. Mais ce qui revient le plus souvent dans les discussions avec Nick Suzuki, c'est sa polyvalence. Martin Saint-Louis disait qu'il était une forme de couteau suisse. Elle peut jouer en supériorité numérique, peut jouer en désavantage numérique, pourrait jouer à l'aile, pourrait jouer au sein d'un quatrième trio, autant qu'un deuxième trio avec Équipe Canada. Donc, Suzuki a vraiment gagné sa place. Il fait partie des rares joueurs qui n'ont pas participé à la confrontation des quatre nations, mais qui ont mérité un billet pour Milano Cortina. Donc, c'est une belle histoire pour Suzuki. Dans les derniers jours, pour lui avoir parlé à quelques reprises, ça ne cachait pas pour dire que le niveau de stress commençait à être grand, que plusieurs joueurs se retrouvent dans le même bateau, qu'ils se croisaient les doigts pour obtenir l'appel de Doug Armstrong, signifiant qu'il mérite une place avec Équipe Canada. C'est maintenant chose faite pour Suzuki. Hier, du côté de la Floride, tu l'as dit, Nick, ça a été un bon match pour le capitaine, le but égalisateur, le but vainqueur en prolongation. Mais c'est pas avec un seul match qu'on cimente une position au sein d'une aussi bonne équipe. C'est un travail qui se fait depuis plusieurs mois dans le cas de Nick Suzuki.
Tu as parlé justement à Doug Armstrong. Guillaume, qu'est-ce qu'il avait à dire, lui, sur sa décision?
Ben, c'était vraiment... Il est revenu sur la polyvalence de Nick Suzuki. Là. Évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant dans le cas du capitaine du Canadien. Tu sais, tu regardes, JF en a parlé, il fait partie de l'élite. Nick Suzuki est le troisième joueur canadien le plus productif depuis le 1er janvier 2025, derrière Nathan McKinnon et Connor McDavid, avec 97 points. Puis en plus de ça, tu regardes son différentiel, on sait, c'est une statistique. On en prend et on en laisse, mais quand même, plus 31 depuis le 1er janvier au sein d'une équipe qui, oui, a connu des bons moments depuis le début 2025, mais qui quand même en arrache une fois de temps en temps, là, soyons honnêtes.
Il y a eu deux Canadiens de Montréal au cours de la dernière année, là, soyons francs. Là.
Exact. Et Doug Armstrong, c'est ça, a souligné et disait on voulait mettre entre les mains de John Cooper des joueurs avec plusieurs outils dans leur coffre. Nick Suzuki correspond exactement à ça. T'sais, on le voit peut-être pas occuper un poste sur le top 6 de cette équipe-là. Mais si jamais il y a une blessure, si jamais l'avantage numérique connaît des difficultés, ben c'est un joueur qui peut occuper des postes, qui peut remplir des trous de ce côté-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'accent là, du côté de Doug Armstrong quand je lui ai posé la question au sujet de Nick Suzuki. Puis ce qui était intéressant, il a dit « on est un petit peu inquiet de son utilisation en désavantage numérique ». Donc, ça laisse croire qu'on le voit peut-être dans cette chaise-là du côté de Hockey Canada. Mais en parlant avec les dirigeants du Canadien, on a réalisé que c'était vraiment une question de mieux gérer son temps de glace. On le sait, Nick Suzuki, qui est tout le temps sur la patinoire du côté de Montréal. Donc, on lui a donné un peu moins de temps en avantage numérique, puis en désavantage numérique. Puis c'était simplement une question de gestion d'utilisation. Donc, on est rassuré du côté de Hockey Canada. Puis on a l'air d'avoir fait, d'être convaincu d'avoir pris la bonne décision dans le cas de Suzuki.
Oui, parce qu'on dit tout le temps, Suzuki peut jouer en désavantage numérique, mais la réalité, c'est qu'il ne le fait pas. Donc, j'imagine pour une équipe, pour des décideurs, tu sais, tu regardes ça puis tu le compares parce que j'ai eu des discussions avec des gens. Puis, une des décisions qui est peut-être mise un peu en doute, c'est celle de garder Anthony Cirelli sur cette équipe-là. Mais Cirelli, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur en désavantage numérique dans la Ligue. Il fait pour John Cooper, en plus, qui est son entraîneur chez Lightning. Puis il fait avec Brendan Eagle, qui va être aussi avec l'équipe canadienne. Donc, ça donne beaucoup d'assurance. Hein? Tu n'as pas à te poser la question. Tu sais que le travail va être fait. C'est pas une fois rendu en Italie où tu te dis, est-ce que Nick Suzuki va vraiment être capable de faire face à ces joueurs-là à des avantages numériques? C'est pas là que c'est le temps de tester. Fait que je comprends absolument la décision d'avoir un Cirelli. Nick Suzuki va être plus, comme vous dites, là, c'est tout à l'expression qu'on utilise, mais le couteau suisse dans une équipe où, écoute, t'as des couteaux, là, on se croirait justement là, chez... comment on appelle ça? Quelqu'un qui fait des couteaux, là, j'ai un blanc. Là, mais en tout cas, quelqu'un, on se croirait dans un magasin de couteaux, appelez ça comme vous voulez.
Quelqu'un qui fait des couteaux.
Ça a un nom, ça, j'ai un blanc, là.
T'auras le temps de le trouver. Fais un petit Google, Nick. Mais tu sais, ce qu'on doit retenir aussi...
Un coutelier.
Ben ouais, voilà, c'est ce que je cherchais. Dans son discours d'introduction, Doug Armstrong disait que quand tu obtiens le mandat d'être le DG d'Équipe Canada, c'est une très bonne nouvelle parce que tu peux choisir parmi plusieurs joueurs. Des joueurs de qualité, il y en a beaucoup. C'est un peu comme mes années de cégep. Là. Tu t'es allé au Foulam, puis le buffet chinois, il était rempli. Man, tu pouvais choisir facilement qu'est-ce que tu voulais mettre dans ton assiette.
Je me demande.
Mais dis le désavantage, le revers de la médaille, c'est que c'est pas évident, puis t'as pas le choix d'avoir des laissés pour compte. T'auras pas le choix d'ignorer des joueurs très talentueux parce que le bassin de joueurs est trop important au niveau du Canada. Mais tu sais, tu as parlé d'Anthony Cirelli, l'objectif, c'est de construire une équipe de hockey. C'est pas d'inviter les 25 meilleurs joueurs canadiens. Il y en a peut-être qui vont sursauter au niveau d'Anthony Cirelli, mais ça reste qu'il y a des avantages numériques. Lui et Eagle, tu le disais, Nick, sont les deux attaquants les plus utilisés par John Cooper. Et c'est pas une coïncidence, mais le Lightning trône au sommet de la Ligue nationale à égalité avec l'Avalanche du Colorado, 85,3% des avantages numériques. Donc, dans un si court tournoi, tu n'auras pas 22 matchs le préparatoire. Ça part immédiatement. Tu peux pas y aller de 25 expériences. Donc, ils savent que Cirelli et Eagle peuvent faire le travail comme première unité en désavantages numériques. Ce sera un de leurs mandats. Suzuki sera peut-être au sein de la deuxième vague, mais tu sais, il a déjà prouvé dans le passé qu'il est capable de jouer en désavantage numérique, mais je regardais son temps de jeu, frôle les 21 minutes par match. Si tu lui donnes des avantages numériques, il arriverait à 24, 23 minutes. Et à un moment donné, il faut que tu doses aussi le temps de jeu de ton capitaine. C'est logique de la part de Martin Saint-Louis de se tourner vers un Philippe Dano ou de se tourner vers un Joseph Veleno pour des missions défensives à 4 contre 5.
Puis tu regardes, tu parlais du désavantage numérique de l'Avalanche qui est aussi premier. Les deux joueurs qui jouent le plus en désavantage numérique sont sur la première unité présentement. C'est Devin Toews et Cale Makar. Je ne sais pas si on va vraiment utiliser Cale Makar dans un rôle comme ça aux Jeux olympiques, mais Devin Toews, c'est beaucoup plus probable. Alors là, tu te retrouves avec tellement d'éléments de qualité stables, des gars qui font le travail. C'est juste bon signe pour l'équipe Canada. On a parlé des joueurs qui sont ajoutés. Bon, qui est retiré? Si on compare avec la confrontation des quatre nations, les joueurs qui perdent leur rôle en attaque, Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie, Seth Jarvis, là, qui est blessé, des Hurricanes de Caroline, et Sam Bennett, des Panthers de la Floride. En défensive, on garde le même groupe, exactement le même groupe. Chez les gardiens, bon, sans surprise, Adam Hill, Samuel Montembeau qui ont perdu leur poste. Logan Thompson et Darcy Kemper vont s'ajouter à Jordan Bennington qui reste là. Surprise, je pense, dans le cas de Sam Bennett, parce que t'es Sam Bennett, là. T'as joué à la Confédération des Quatre Nations, ça a bien été. T'as gagné le Conn Smythe en séries éliminatoires. Cette année, t'as 29 points en 39 matchs avec une équipe qui est sans Matthew Tkachuk, sans Alexander Barkov, et tu te fais tasser pour, probablement, disons-le, Tom Wilson, qui a un peu le même profil. Dans les autres ajouts, là, bon, McLean Celebrini, on va en parler. Borvat qui s'ajoute aussi. Et je ne veux pas en oublier, j'ai parlé des deux gardiens tantôt. Je pense que ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour dans les, dans les nouveaux. Borvat, oui. Donc, t'es Sam Bennett, là, tu prends ça comment aujourd'hui? Là?
Ben, c'est un joueur, on s'entend, c'est un joueur de rôle au sein de cette équipe-là. Tu peux pas avoir 3-4 joueurs d'énergie qui frappent et qui dérangent l'adversaire. Théoriquement, tu pourrais, là, mais je veux dire, je pense qu'avec Tom Wilson, le Canada va être bien servi là, à ce tournoi-là. Puis on en a parlé dans les derniers podcasts. Je pense que c'est un rôle qui est un petit peu plus compliqué, peut-être plus complexe avec les règles de la Fédération internationale de hockey sur glace. C'est pas la même chose exactement. Donc, est-ce que tu veux vraiment avoir un Sam Bennett et un Tom Wilson dans ta formation? Je pense qu'on a vraiment... Tu sais, puis ce que j'ai trouvé intéressant, Doug Armstrong disait, on a une liste de réserves, puis sur la liste de réserves, c'est compartimenté. Donc, on a... S'il y a un joueur offensif qui se blesse, bien, on a une liste de joueurs offensifs. Si on a des joueurs de rôle, des joueurs qui vont être utilisés en désavantage numérique, on a une liste et tout ça. Donc, probablement que sur la liste, c'était Tom Wilson et Sam Bennett. On en apporte combien avec l'équipe?
Un seul.
Il y a Brad Marchand aussi qui est là. Tu sais, ça commence à faire beaucoup de papier sablé, de gars qui dérangent. Donc, je pense qu'on n'a pas voulu mettre tous nos œufs dans le même panier du côté du Canada. On a dû faire des choix qui étaient déchirants, mais je pense que Tom Wilson a mérité sa place dans cette équipe-là.
À mes yeux, je pense qu'il n'y a pas de doute, Bennett est peut-être la surprise parmi les exclus, étant donné qu'il a gagné justement le Conn Smythe l'an dernier, mais je regardais aussi son utilisation des avantages numériques du côté des Panthers de la Floride. C'est 35 secondes par rencontre. Donc, il est plus au sein d'une troisième vague. C'est pas lui qui est parmi le top 4 chez les attaquants des Panthers. Il venait peut-être à se battre pour un poste avec un Brendan Eagle, un ailier. Il devait se battre avec un Tom Wilson. On a choisi une direction différente avec Tom Wilson. Puis Bennett connaissait un lent départ aussi. Là, c'est 9 points à ses 10 derniers matchs. Mais le gros de la formation canadienne se jouait début décembre quand les dirigeants se sont rencontrés. Doug Armstrong l'a mentionné en disant qu'il avait déjà encerclé 12 attaquants, les défenseurs, probablement les 3 gardiens. Donc, Bennett a glissé au niveau de la hiérarchie de l'équipe canadienne. Mais bon, c'est Guillaume fait bien de le dire. Je pense pas que tu peux avoir 8 joueurs qui vont avoir surtout l'élément robustesse. Mais tu sais, on parle d'un paquet de noms, mais... Sur 25, il reste encore plusieurs matchs à jouer avant de partir pour Milan. Ça se pourrait qu'un attaquant tombe au combat. Ça se pourrait qu'un défenseur tombe au combat. Donc, le 25 va peut-être devenir 28 joueurs dans quelques semaines. Tu te croises les doigts pour pas qu'il y ait trop de joueurs blessés, mais ça reste une réalité dans un calendrier drôlement condensé.
Et je me demande si on s'est pas dit... est-ce que Tom Wilson, qui est le plus apte à jouer sur un premier, deuxième trio avec des gros noms, si on veut un élément robustesse entre Sam Bennett ou Tom Wilson? Tu sais, Tom Wilson l'a fait depuis tellement longtemps avec Alex Ovechkin. Je ne suis pas tout le temps avec lui présentement, mais il l'a fait longtemps chez les Capitals. Il a joué avec Nick Backstrom aussi. Donc, moi, je pense que ça a peut-être joué un peu à l'avantage de Wilson de faire ce gars-là. On peut le placer sur un des deux premiers trios. Puis Wilson, c'est un joueur... Tu sais, il progresse encore, là, Wilson. C'est un joueur qui continue à s'améliorer, qui est de meilleur en meilleur. S'il peut trouver le moyen d'être discipliné à Milano Cortina, ben peut être tout un atout dans ce qu'il apporte, surtout contre les États-Unis.
Aussi, il y a aussi un bon coup de patin. T'sais. Au-delà de l'élément robustesse, intimidation, gros bonhomme, c'est un gars qui patine très bien. Et Armstrong le disait, t'as des choix déchirants, t'as des choix difficiles. Bennett rentre dans cette catégorie-là. Je pense que Konechny s'est un petit peu sorti de l'équation avec une saison plus tranquille. Seth Jarvis, en étant blessé, lui aussi n'a pas aidé sa propre cause. Donc, tu arrives à la fin, tu dois y aller de choix déchirant, puis il n'y a rien de gênant à inviter Tom Wilson avec l'équipe canadienne.
Maclin Celebrini qui fait l'équipe. Les gars, êtes-vous surpris?
Non, ah, écoute, vraiment pas.
Comment?
21 buts, 60 points à ses 39 premiers matchs cette année. Je pense qu'on s'attendait tous pas à le voir faire des choses du genre cette saison, en tout cas dès cette saison. Mais tu sais, Doug Armstrong a vraiment dit au début décembre, c'était réglé, il était sur notre équipe quand on s'est rencontrés. Il faisait partie du noyau de 12 joueurs, 12 attaquants qu'on avait identifiés. Maclin Celebrini, oui, est jeune, mais a quand même de l'expérience. C'était au Mondial aussi l'an dernier. Il a joué au championnat mondial junior. Connaît un peu ce que c'est d'être sur la scène internationale. Puis, c'est dur de tasser un joueur qui est parmi les meilleurs de la Ligue au moment où on se parle. Là, ça aurait été vraiment difficile de l'écarter de l'équation. Je suis pas du tout surpris qu'il soit de la formation.
Ouais. Doug Armstrong contait une histoire aussi. Il disait que l'an passé, il a parlé à Celebrini. Il disait écoute, j'y avais dit qu'il n'était pas sur le radar de l'équipe, mais de continuer à s'améliorer. Tout ça. Puis ce soir-là, Celebrini a fait quoi? 4-5 points, si j'ai bien compris.
4 points. Puis Armstrong disait en riant qu'à l'avenir, il était pour lui parler après un match.
Après
un match. Question de changer probablement la petite superstition.
Les Sharks préféraient le contraire, surtout si c'est contre les Blues, là, ça aurait été bon. Mais bon,
mais
on a choisi...
Quand tu parles d'un gars, Nick, rapidement, quand tu parles d'un gars qui gagne sa place, Celebrini, c'est la définition. Absolument. Il est troisième meilleur marqueur dans la Ligue nationale de hockey à 19 ans. Il a 60 points. Tantôt, Guillaume parlait des plus et moins de Nick Suzuki avec le CH, mais il est plus 13 avec les Sharks de San Jose. Je me répète, il y a plusieurs recruteurs qui vont dire qu'en ce moment, si tu as voté pour le joueur le plus utile à son équipe, Maclin Celebrini peut venir au sommet de la liste, peut chauffer les fesses de Nathan MacKinnon avec l'Avalanche du Colorado ou même d'un Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton.
Bien, vois-tu, on a voté. J'ai voté ce matin. Là, on va faire l'exercice. Ça va être publié dans quelques jours sur lnh.com. Nos votes de demi-saison. Puis Celebrini est dans mon top 3. Pas le choix.
Ben, moi, il était deuxième.
Bon, toi, il est deuxième.
Deuxième aussi.
Pas le choix. Tu pouvais pas le prendre. En plus, on dit tout le temps, si t'es capable d'amener un joueur plus jeune à talent égal, tu le formes pour les événements suivants. Tu fais une pierre à deux coups avec Celebrini.
Celebrini, tu peux le placer à l'aile d'un top 6. Là. Place Celebrini avec Nathan MacKinnon ou avec Connor McDavid. Pas facile pour l'équipe adverse.
On parlait de Tom Wilson. Celebrini, c'est pas le plus gros. Un Tom Wilson peut y faire de l'espace sur une patinoire. Ben oui. Puis, ça peut être une bonne combinaison. Je pense que ça a fait partie de l'équation aussi.
Ouais, c'est pour ça comme on disait tantôt, Wilson, c'est un choix qui est intéressant. On n'a pas pris Connor Bedard. Avez-vous l'impression qu'il est très haut sur la liste d'appels si jamais on a un joueur, surtout un joueur habile qui se blesse?
Ben, logiquement, oui. Il doit être haut sur la liste. Sa blessure à l'épaule a peut-être freiné un petit peu son élan. Bedard, à l'image de Celebrini, c'était celui qui transportait l'équipe sur son dos. Les Blackhawks, les Sharks surprennent quand même dans l'Ouest en étant deux équipes qui cognent à la porte pour une participation aux séries. C'est un gars qui est hyper talentueux, mais un petit peu moins polyvalent qu'un Maclin Celebrini. C'est probablement ce qui a nui à sa candidature pour les Jeux olympiques. Mais Bedard doit rester près de son cellulaire. S'il voit un numéro avec Missouri, en provenance de Saint-Louis, Doug Armstrong va peut-être devenir nerveux dans les prochains jours.
Par contre, si c'est un numéro de East Illinois, tu raccroches le plus rapidement
ça, possible. Ça, ça, ça,
on ne reviendra pas sur le sujet de Saint-Louis.
C'est pas, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le coin le plus sympathique de la grande région de Saint-Louis. On n'a pas de comparable ici du côté de Montréal. Les gars, défensive identique, on garde les mêmes éléments qu'aux Quatre Nations. Je pense que c'est un bon choix. Oui, plusieurs ont aimé voir Matthew Schaefer. Mais je pense que dans un tournoi comme ça, tu y vas avec l'expérience, tu y vas avec 8 gars qui ont fait le travail aux Quatre Nations. Tu sais, je voyais pas vraiment de doute. T'amènes un Schaefer, peut-être, oui, mais je pense que la stabilité, l'expérience, tu t'amènes un Doudhury à la place d'un Schaefer, tu sais, où ça aurait été un Travis Sanheim. On n'a pas bougé, je pense que c'est logique. La question, par contre, devant le filet, il y en a 2 sur 3 qui ont perdu leur poste. Pouvez-vous m'expliquer, en regardant les statistiques uniquement, là, pourquoi Jordan Binnington est là?
Boston, TD Garden. Autant pour la finale contre les États-Unis que le match 7 d'une finale de la Coupe Stanley entre les Blues et les Bruins de Boston à l'époque. Expérience, capable de gérer la nervosité d'une grande scène. Respect aussi pour ce qu'il t'a donné du côté de la confrontation des Quatre Nations. Puis Guillaume était là à l'hôtel du côté de Minneapolis, mais Doug Armstrong a parlé avec beaucoup de franchise en disant du côté des statistiques, Jordan Binnington n'est pas parmi les meilleurs gardiens canadiens.
Il est pire.
Il est parmi les pires. Pire. Mais Armstrong disait avec un sourire en coin, lui, il va être le premier à le dire, mais je peux également être le premier à le dire parce qu'il occupe le poste de DG des Blues, donc le voit jouer tous les soirs. Mais a rapidement pris sa défense en disant bien, la mauvaise saison des Blues vient grandement affecter les chiffres personnels de Jordan Binnington. Donc, n'a pas voulu lui lancer la pierre en disant que c'est gardien de but, t'es le dernier. Donc, si ton équipe est croche, bien, tu en souffres. C'est le cas avec Binnington. Mais son palmarès, son curriculum vitae a fait en sorte qu'il a réussi à maintenir son poste avec l'équipe Canada.
C'est quand même étonnant parce que présentement, il est en train de perdre son poste de numéro 1 pour Joel Hofer qui a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Je pense 6 de ses 9 derniers. D'ailleurs, Hofer va obtenir un deuxième départ consécutif à Saint-Louis parce qu'à un moment donné, il faut que Jim Montgomery protège sa job aussi. Il faut qu'il gagne. Donc, de voir Binnington là, je comprends tout ce que tu me dis, JF. Je comprends. Mais si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Puis Binnington, présentement, ne garde pas les buts comme un gardien qui devrait être avec l'équipe Canada. Il va l'être.
Tu peux inviter 3 puis tu as un filet. Donc,
ouais, je
le
sais,
de rester
c'est ça,
fidèle
ça.
Envers ton gardien qui portait les couleurs du Canada il y a de cela à 10 mois, du côté de Montréal et du côté de Boston, ça reste une décision où ils ont été conservateurs dans le choix de Binnington. Mais moi, je tombe pas en bas de ma chaise. Le nom de Binnington était encerclé sur ma liste des 3 gardiens.
Et là, est-ce que c'est numéro 1, par contre? À quel point ta loyauté fait que tu le mets numéro 1?
Ben, moi, je pense qu'on va commencer le tournoi avec Binnington sans aucun doute. Justement, tu sais, si on se disait qu'il est pas assez bon cette année, on l'aurait pas amené avec l'équipe. Donc là, on l'amène. D'après moi, c'est pour lui donner la chance de justement montrer que derrière une brigade défensive qui a beaucoup plus d'allure que celle des Blues de Saint-Louis, il va être capable de faire le travail. Puis tu sais, moi, je reviens à la finale des Quatre Nations. L'an dernier, à Boston, un environnement hostile. On est en prolongation. Les États-Unis ont décoché 6 tirs dans cette prolongation-là avant que le Canada marque le but. Mmh. Et Binnington a été fumant dans cette prolongation-là. Donc, tu sais, oui, les statistiques, mais on le sait que lui, sous pression, ça ne l'affecte pas. Il est capable de livrer la marchandise. Fait que ça aussi, je pense que, tu sais, une fois que tu vas être rendu en finale ou en demi-finale ou peu importe du tournoi olympique, tu veux un gardien qui ne flanchera pas et qui ne commencera pas à se laisser affecter par l'environnement extérieur et tout ce qui vient avec ça. Donc, je pense que Binnington va avoir la chance de conserver son poste de numéro 1 avec les premiers départs qu'on va lui donner du côté de Milan.
On va voir tout ça le 12 février. C'est là que ça commence. Le Canada va être dans le groupe A avec la Tchéquie. Ça commence contre la Tchéquie. Ensuite, la Suisse et la France. Excusez. Donc, un groupe quand même, somme toute, très à la portée.
Ben,
ça
si tu veux donner une chance à ton gardien de gagner, de trouver ses repères, Je veux pas manquer de respect à nos amis de la France et de la Suisse qui peuvent nous écouter, mais on parle quand même pas de, surtout la France, on ne parle pas d'une puissance mondiale avec Alexandre Texier qui est le go-to du côté des Français. Donc, Bennington
écoute, présentement,
pourrait...
c'est bon signe. C'est bon signe pour de la manière qu'il joue, là. Ça va peut-être laisser une chance à la France si Texier peut jouer de cette façon-là.
Bonne chance à Tex quand même, là. Il y en a un, Alexandre Texier, du côté de la France. Sinon, il y a Pierre-Édouard Bellemare qui a de l'expérience du côté de Ligue nationale. Mais Pierre-Édouard est quand même un joueur vieillissant. Donc, Bennington contre la France, je ne m'attends pas à ce qu'il reçoive 35 lancés non plus, là. Il devrait avoir une petite soirée tranquille.
Oui, alors on va, bien sûr, on va suivre ça, aller lire CNNH.com, on va avoir plusieurs sites, plusieurs textes, par contre, aller dans les prochains jours. T'es en Floride, JF, parle un peu de ce qui s'est passé hier chez les Canadiens. Encore un match, fin de match spectaculaire. Cette fois-ci, les Canadiens l'emportent en prolongation contre les Panthers. Deux jours avant, on s'était incliné contre le Lightning, mais encore là, après une remontée. Présentement, le tricolore se retrouve avec une fiche de 4-0-2 à leurs 6 derniers matchs. 4 matchs là-dedans qui étaient à l'étranger, t'interprètes ça comment? Parce que oui, faut que tu reviennes dans le match, oui, tu démontres du caractère, les résultats sont là, mais en même temps, ça serait peut-être un peu plus fun, je pense que c'est Cold Coffee qui disait ça, là. Pour la nouvelle année, là, ce serait le fun de prendre l'avance en premier là,
dans
un match. Coffee
disait que ça devrait être la résolution pour l'année 2026, c'est de jouer avec les devants plutôt que de jouer avec les nerfs d'un peu tout le monde, mais il faut quand même être capable d'y aller, de remonter. Du côté de Tampa Bay, Juraj Slafkovský a joué un de ses meilleurs matchs dans la Ligue nationale. Slafkovský, là, depuis même un mois et demi, depuis la mi-novembre où Martin Saint-Louis l'a placé avec Kapanen et Ivan Demidov, on voit un Slafkovský métamorphosé. On voit l'ailier dominant que le Canadien a repêché premier au total. Contre les Panthers, perdait par 2. Après le but de Sam Reinhardt, où techniquement, c'est ce qu'Éric Raymond, c'est ce que plusieurs entraîneurs des gardiens vont demander, c'est de se déplacer, de couvrir le plus possible de l'espace, mais il restait un petit trou en haut de Samuel Montembeault. Reinhardt l'a trouvé, il a marqué. Là, tu te dis, OK, c'est peut-être un but faible. L'histoire, le narratif va être que Montembeault a encore une fois flanché, mais il restait 5 minutes à jouer. Caulfield qui sort ses mains, qui déculotte et tout, Luostarinen finit par marquer le premier but. Puis après ça, bien, on retire Samuel Montembeault. Nick Suzuki trouve une façon de marquer sur une passe d'Ivan Demidov. En prolongation, une punition au fêté Brad Marchand qui avait donné un petit coup de coude à Michael Matheson.
Un bon coup de coude.
C'était à l'image de Marchand. C'était exactement son type de soirée. Marque un but, sort le coude. Suzuki qui marque sur... Les deux qui ont des passes, c'est Hudson et c'est Demidov. Hudson et Noah Dobson, mais t'as également Slafkovský qui avait bien fait bouger la rondelle. Un beau but de la part du capitaine. Donc, mais moi, ce que je retiens, c'est après le match, les célébrations pour Samuel Montembeault. Ouais. T'as vu aussi toute la dose d'amour qu'on voulait donner aux gardiens. Il y a Cole Caulfield. Cole Caulfield, en entrevue, c'est rare qu'il est très, très bon, sans méchanceté. Là, c'est pas celui qui y va des plus grandes déclarations. Mais il disait, vous n'avez pas idée ce que Samuel a pu traverser dans les derniers jours, dans les dernières semaines. C'est peut-être une petite flèche à certaines personnes qui voyaient déjà la fin du monde pour Samuel Montembeault si jamais il connaissait un mauvais match. Il fallait le placer au ballottage, il fallait l'échanger, il fallait l'envoyer au fin fond de la planète Terre. Mais ça reste un gardien qui a signé 31 victoires l'an dernier. Tu ne peux pas devenir mauvais du jour au lendemain. C'est ressaisi, c'est relevé, a connu un bon départ contre les Panthers. Puis c'était le fun de le voir dans le vestiaire après le match avec un sourire. Tu sais, Guillaume, tu l'as couvert toi aussi. Tu as vu plusieurs matchs cette saison où Montembeault était quand même le moral d'un talon. Puis hier, il nous a fait rire en disant... Quand c'était l'avantage numérique, il était à l'autre bout de la patinoire, puis il criait dans son filet « shoot ». Il était nerveux, il était intense, puis j'ai rarement vu Sam patiner aussi vite qu'après le but vainqueur. Pour se rendre en direction du territoire adverse, Montembeault était en mode « je patine », puis Alexandre Carrier criait dans ses oreilles. Dans le vestiaire, avant qu'on rentre, on voyait que les gars s'amusaient avec Montembeault. Donc, c'est un match. C'est un bon départ. Il faut poursuivre maintenant. Mais de voir qu'il y a eu un pas de recul, passer du temps avec le Rocket de Laval pour essayer de reconstruire sa saison, sa confiance, ça peut être un bon signe pour le CH et surtout pour Montembeault.
C'est gros, tu sais, on n'a pas idée de l'extérieur ce que ça peut être de vivre cette pression-là, mais il y avait la pression du monde entier sur ses épaules. T'as un Fowler qui arrive, qui est la nouvelle idole des partisans. Tout le monde veut le voir dans le filet. Tout le monde a semblé tourner la page sur Montembeault. Là, on te donne une chance après quoi, presque un mois sans avoir vu d'action dans la Ligue nationale. Tu dois répondre
et
à l'appel.
Contre les champions de la Coupe Stanley, là.
Ouais. Exact. C'est vraiment, tu sais, quand on parle de pression, c'est un phénomène abstrait. Oui, il y a de la pression, mais tu sais, Samuel Montembeault, hier, avant le match, devait être assez nerveux, puis il devait savoir qu'il jouait gros avec ce départ-là. Puis de le voir, tu sais, j'ai pas regardé le match, je suis à Minneapolis, mais de le voir sortir avec la victoire, ben je pense que c'est positif, puis ça peut-être une petite pierre pour partir une fondation de quelque chose de plus gros d'ici la fin de la saison.
Mais c'est il était le premier à le dire après le match, Montembeault, qui était drôlement nerveux avant de sauter sur la glace du Amerind Bank. Donc, c'est normal aussi, tu le disais, Guillaume, l'enjeu est important pour lui. Il veut se repositionner, il veut se relancer. Il y avait devant lui une très bonne équipe de hockey. Mais hier, on le sentait confiant. Il a joué avec aplomb. Même la veille du match en Floride, je regardais l'entraînement à Fort Lauderdale. Il a travaillé de longues minutes avec Éric Raymond, avec Stéphane Robida en fin d'entraînement qui décochait des tirs sur lui. Puis, on le sentait solide. On le sentait heureux. Puis hier, dans le match, il a bien réussi ses déplacements, donnait moins de retours, a bloqué quoi, 28 ou 29 tirs des Panthers. 28, donc, ouais. C'est quand même une très bonne note à son dossier. Puis surtout après le détour qu'il a fait. Puis tu sais, il disait que de retravailler avec Marco Marciano, qui a été son entraîneur avec l'Armada de Blainville-Boisbriand à l'époque, qui est maintenant l'entraîneur des gardiens du côté du Rocket, il voulait pas critiquer Éric Raymond, c'était pas ça le but, mais il dit que ça lui a fait probablement du bien d'avoir une voix différente. Les deux ont travaillé ensemble. Ils n'ont pas réinventé la roue, mais ce qu'ils disaient souvent, c'était le tracking. Mieux suivre la rondelle. On l'a vu il y a quelques matchs là, avant son renvoi du côté du Rocket où Montembeault semblait complètement déstabilisé, surtout contre le Lightning de Tampa Bay quand il était venu en relève à Jakub Dobesch. Mais encore là, à ce moment-là, Montembeault est probablement encore un petit peu malade. De ce qu'on comprend entre les branches, Montembeault n'était pas à 100%, puis on l'a quand même envoyé dans l'action pour remplacer Dobesch ce soir-là.
C'est quoi le plan à partir de maintenant, là? Est-ce que ce match-là est assez pour prendre une décision ou on part sur le ménage à trois? Je vais ajouter une autre question à ça. Est-ce que Fowler en a fait assez pour que tu fasses ce gars-là doit rester dans la Ligue nationale? Dans une optique où le plan A, c'était pas ça, puis B, tu veux y donner un maximum de départ à ce gars-là.
Mais Fowler t'a montré qu'il est pas loin, même qu'il peut jouer au niveau de la Ligue nationale, connaître un impact positif. Mais tu viens de le dire, Nick, à mes yeux, l'important, c'est de le voir obtenir le plus grand nombre de départs possible. C'est pas de jouer une fois aux trois matchs dans un manège à trois gardiens. Je serais surpris qu'on garde trois gardiens éternellement. Ils vont finir le voyage. Là. Il reste Caroline, Saint-Louis-Dallas.
Dallas.
Donc, ce voyage-là risque de se faire avec les trois hommes masqués. Mais au retour vers Montréal, on risque d'y aller d'une décision. Il ne faut pas oublier aussi, Jakub Dobesch n'a pas à passer par le ballotage. Si jamais Kent Hughes, Jeff Gorton ont été séduits au point où ils veulent continuer de miser sur Fowler, mais c'est possible de le faire et de renvoyer Jakub Dobesch du côté du Rocket de Laval.
C'est quand même une bonne claque quand tu dis
Je pense
Dobesch,
que la décision la plus Dobesch simple, la plus mal, prudente, là, c'est de revenir à Dobesch-Montembeault. Puis tu continues de garder ton joyau dans la Ligue américaine. Tu lui donnes un grand nombre de départs. Mais Fowler a quand même, tu sais, si tu lui donnes une note là, dans son bulletin, il y a une belle note pour un jeune gardien de 21 ans. Puis il t'a permis de ramasser là, des points précieux au classement.
Ouais, 7,5-8 dans ce coin-là.
Oui, facilement.
Près,
facilement.
Là, je pense que c'est vraiment. Je veux dire,
c'est pas
super
encore Carey Price non plus. Là.
Non, c'est ça.
On lit sur les réseaux sociaux, là, Le Messi est arrivé, mais faut apprendre à respirer des fois.
Ce sera probablement jamais Carey Price, à vrai dire. Je veux dire, Carey Price.
Il y en avait un.
Je pense qu'on doit un petit peu. Faut patienter un peu avant de renvoyer Fowler dans la Ligue américaine. Juste question de garder le même niveau de pression sur les épaules de Montembeau en ce moment. Parce que si on renvoie Fowler, c'est d'envoyer le message que Montembeau est prêt à recommencer à avoir le filet le plus souvent possible, puis qu'il est capable de livrer la marchandise. Je pense qu'on devrait donner quelques autres départs à Montembeau, s'assurer que on est de retour sur les rails avant de renvoyer Fowler, parce que là, ça va causer beaucoup de branle-bas de combat en ville, j'ai l'impression.
JF, tu sais-tu, est-ce que les Canadiens venaient à Montréal pour le nouvel an ou on s'en allait tout de suite en Caroline?
Non, direction Raleigh immédiatement après
donc,
le match.
Donc, c'est logique de garder les trois gardiens ensemble sur la route pour
jusqu'à dimanche prochain le match contre Dallas. C'est quand même un long voyage. Fowler, je l'ai vu aussi après la rencontre, là, il était dans le corridor. C'était le gardien en trop hier du côté de Sunrise. C'était lui le troisième gardien. Mais Fowler est toujours dans l'entourage de l'équipe.
Bon, parfait. On va suivre ça. De toute façon, on va pouvoir te... Non, parce que là, toi, tu restes du côté de la Floride. C'est vrai, je me suis mélangé. Classique hivernal, donc on va pouvoir suivre tout ça. C'est demain.
Le 2 janvier à 20h. Ouais,
dire que c'est demain que les activités commencent au niveau des entrevues, tout ça. Donc, tu vas pouvoir parler aux joueurs, tu vas parler à tout le monde. Le match, lui, qui va avoir lieu le 2, c'est diffusé partout, diffusé sur TVA Sport, si vous l'écoutez ça. Puis, ben toi, Guy, tu restes au Minnesota. Gros match ce soir, équipe Canada Junior contre la Finlande. Bon, les gens vont peut-être nous écouter après le match, tout ça, mais ton take rapidement là, sur cette équipe-là du Canada avec ce que tu as vu jusqu'à présent?
Ben, jusqu'à maintenant, c'est pas très convaincant. Le premier match, on a réussi à passer le test contre la Tchéquie. Une victoire de 7-5, c'était un peu croche défensivement. Deuxième match, victoire en prolongation contre la Lettonie qui a failli rejouer le tour au Canada cette année. Ça, 2-1 contre la Lettonie, je pense que c'est impardonnable. Je pense pas que c'est une nation qui est supposée tenir tête aux Canadiens de cette façon-là. Troisième match contre le Danemark, ben c'était une petite facile, 9-1. Je pense que ça a donné un petit peu de confiance à tout le monde. Il y a plusieurs joueurs qui ont débloqué dans ce match-là. Et là, on arrive au dernier test de la ronde préliminaire contre la Finlande, qui est une équipe qui surprend quand même depuis le début de ce tournoi-là. On a poussé les Tchèques jusqu'en prolongation et on a été assez convaincants niveau défensif et tout ça. Donc moi, quand je regarde ça, le Canada en a arraché à générer de l'attaque contre la Lettonie qui jouait de façon très, très structurée défensivement. La Finlande est une équipe qui fait du jeu défensif son principal atout. Donc ça pourrait être difficile pour le Canada de générer de l'attaque ce soir contre la Finlande, mais si on parvient à gagner par la marque de 4-2, tu sais, marquer une coupe de but. Je pense que cette équipe-là a quand même plus de confiance que par les dernières années. Puis on est un peu plus conscient aussi. Tu sais, les dernières années, c'était comme on a perdu contre la Lettonie, mais c'est pas grave. On savait qu'on aurait dû gagner. C'est juste que ça n'a pas fonctionné et tout ça. Là, on est un peu plus conscient, je pense, des problèmes qu'on a jusqu'à maintenant. Puis Dale Hunter travaille à réparer ces problèmes-là, à trouver les solutions. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de l'approche, c'est peut-être un petit peu différent des deux dernières éditions là, où le Canada s'est incliné en quart de finale. Donc, peut-être qu'avec une victoire ce soir, on s'assure du premier rang du groupe B. On va avoir un duel de quart de finale contre la quatrième équipe du groupe A qui risque d'être la Suisse peut-être. Donc, je pense qu'on est quand même...
La Suisse, c'est un très bon tournoi, somme toute.
La Suisse, tenue tête aux États-Unis, a pris les devants contre la Suède avant de s'incliner, a quand même gagné 4-0 contre l'Allemagne. Donc, c'est une équipe qui va être à surveiller, mais j'ai l'impression que le Canada, en s'assurant du premier rang du groupe B, se placerait quand même en bonne posture pour finalement passer la ronde des quarts de finale pour la première fois en 3 ans. Là. Ça enlèverait un poids des épaules de cette équipe-là. T'sais, une fois qu'on va avoir passé cette étape-là, si on la passe, j'ai l'impression que tout est permis pour cette équipe-là parce que tu regardes d'ailleurs dans le tournoi, les États-Unis On savait que c'était pas une puissance cette année. Je pense qu'on l'a vu. On a failli échapper un match contre la Slovaquie. On a gagné seulement 2-1 contre la Suisse. Le Canada est vraiment la puissance de ce tournoi-là. Donc, une fois qu'on va avoir passé le petit obstacle des quarts de finale, ben je pense qu'on va être parti pour la gloire.
C'est à eux à perdre le tournoi.
As-tu un ou deux coups de cœur, Guillaume, avec l'équipe canadienne depuis le début du tournoi?
Ouf, c'est difficile, hein, parce que, tu sais, un Michael Misa...
Le match contre le Danemark n'est pas...
Ben non, c'est ça. Puis même les autres matchs, il n'y a pas un joueur... Ben, tu sais, Michael H, pas pour faire du favori du chauvinisme. C'est un espoir du chauvinisme parce que c'est un espoir des Canadiens, mais honnêtement, c'est le joueur qui a le plus d'impact dans cette équipe-là. Au niveau offensif, le duo qu'il forme avec Gavin McKenna, on sent qu'il y a beaucoup de chimie entre les deux, ils se trouvent facilement sur la glace. Et je suis quand même impressionné par les aptitudes offensives de Michael Hage. Là. Sorti les mains quelques fois dans le tournoi jusqu'à maintenant. En avantage numérique, qui est une menace constante. Et il repère Gavin McKenna vraiment facilement. Donc, au niveau de la vision du jeu, là, c'est ce qui me saute aux yeux. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent un grand tournoi jusqu'à maintenant, mis à part peut-être Age du côté du Canada.
Michael Misa, est-ce qu'il est à 100% ou traîne encore quelques petits bobos?
C'est une bonne question parce que honnêtement, il est à peu près invisible depuis le début du tournoi. S'est réveillé, bon, je pense avec 4 points contre le Danemark, mais bon, le Danemark, je pense qu'on n'a pas beaucoup de. Ouais. On peut pas tirer beaucoup de constats de ce match-là, autre que le fait que le Canada a finalement débloqué contre une équipe qui était supposée dominer. Là. Ça, t'sais, on a. Contre la Lettonie, ça a été difficile. Là. Contre le Danemark, on a réussi à marquer des buts. Mais Misa, pour l'instant, est quand même parmi les déceptions là, de cette équipe-là. J'ai
en
hâte
même
de
temps,
voir.
Il y a tellement peu joué cette année avec les Sharks qu'à un moment donné, ça n'a pas le choix de te rattraper quand tu arrives dans un calibre où il faut que tu ailles jouer. Tu fais face aux meilleurs joueurs au monde de ton groupe d'âge, même des plus vieux. Tu sais, je peux comprendre. Puis comme tu dis, il n'est peut-être pas à 100% puis tout ça, mais. Peut-être qu'il va prendre son rythme. Peut-être que, justement, comme tu dis, cette bonne performance-là contre le Danemark va peut-être lui permettre de trouver son rythme là, pour la suite du tournoi.
Ouais. Puis il ne faut pas oublier qu'il est arrivé aussi un peu en retard au camp d'entraînement. Donc, manqué, je pense, la première semaine du camp. Donc, il est peut-être encore en train de s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, mais on en attend. C'est certain qu'on en attend plus de la part de Michael Misa dans ce tournoi-là, mais il reste encore une semaine d'activité. On pourrait se reparler à la fin du tournoi et parler d'une grande performance de sa part. Donc, c'est à suivre pour la suite.
Alors, on va faire un bilan de tout ça lors de notre prochain épisode, dans le fond. 6 ou 7, là, on verra le janvier qu'on va pouvoir se parler. On va pouvoir aussi discuter de ce qui va se passer chez les Canadiens et tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'action. Les gars, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui sur le balado. À la dernière seconde, vous êtes joints. D'ailleurs, félicitations, GF, qui a traîné son micro en Floride alors que...
Oui, mais je venais juste de l'échapper aussi, si vous avez entendu du bruit.
Oui, on a entendu. Je me demandais ce que tu faisais, mais...
J'ai voulu brancher mon cellulaire, mais avec mes talents au niveau de l'informatique, il fallait que j'échappe mon micro au passage. Donc,
ce que j'aime, c'est que GF est tellement analphabète informatiquement puis tout ça, qu'il ne sait pas que je peux tout enlever ces sons-là puis personne ne l'a
mais je
l'ai
dit, j'ai pas de gêne, écoute.
C'est de la transparence.
Faut être honnête dans la vie.
C'est de la transparence, exactement. Ah ben c'est ça. Donc, prochain balado, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, on va se parler. Suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée si vous voulez être certain de rien manquer. Regardez-nous aussi sur YouTube. On est maintenant disponible vidéo pour voir GF échapper son micro, son lunch et probablement tout le reste éventuellement. Allez sur la page de la NHL sur YouTube, section podcast, vous allez nous trouver. Les gars, merci encore d'avoir été là. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle très bientôt.